Vous écoutez Les Jeux dans leurs yeux, la série consacrée aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Un podcast produit par Miro Media, le média qui croise les regards autour des grands événements sportifs et culturels, diffusé sur Radio Campus Paris et à retrouver sur nos réseaux sociaux. Cet épisode sera présenté par Cyprien Lucchio.
Faire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 des Jeux responsables, c'était toute l'ambition des équipes de Tony Estanguet. Un an après, lors du bilan de ce mois durant lequel la capitale française a accueilli le monde entier, a sonné. Des Jeux Olympiques et Paralympiques sobres, pensés pour limiter leur empreinte, réutiliser l'existant, réduire le superflu. 100 ans après la dernière Olympiade parisienne. Des Jeux conçus non plus seulement pour émerveiller le monde, mais aussi pour le respecter. Dans un monde où chaque degré compte, où chaque ressource se raréfie, Paris 2024 a voulu montrer qu'un autre modèle de grand événement sportif était possible. En réduisant l'empreinte carbone de 55% par rapport à la moyenne des Jeux de Londres et Rio 2016, Paris 2024 a fait de la sobriété sa priorité. Cette réussite s'explique notamment par l'utilisation de 95% d'infrastructures existantes ou encore le déplacement de plus de 80% des supporters en mobilité douce ou en transport en commun. Aujourd'hui, sur Miro Media, trois invités d'exception sont venus nous éclairer sur une thématique devenue essentielle dans le sport, l'écologie. Avec eux, nous reviendrons sur cette ambition portée autour de jeux sobres et nous chercherons des solutions pour garantir un héritage durable. Bonjour à tous les deux. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer notre entretien, je me permets de vous présenter, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas et qui nous regardent ou nous écoutent. Othmane, toi, tu as 34 ans. Tu es membre de l'association des baroudeurs du sport et tu as été qualifié de porte-bonheur français l'été dernier puisque tu as assisté à 21 médailles d'or françaises. Tu vas nous expliquer comment tu as réussi cet exploit. Et face à toi aujourd'hui, Alice. Alice, tu es étudiante en école de commerce et tu réalises actuellement un mémoire sur la durabilité économique, écologique et sociale des méga-événements sportifs en réalisant une étude comparative des Jeux Olympiques de Paris 2024 et ceux de Londres 2012. Enfin, cet épisode sera conclu par Justine Biro, qui est directrice à l'Institut du Sport Durable et copilote du rapport Décarbonons le sport au Shift Project. Alors, merci à tous les deux d'être là. Première question, je me tourne vers toi, Alice. Donc, tu es étudiante, tu réalises un mémoire actuellement. D'après tes recherches comparatives avec Londres, qu'est-ce qui, d'après toi, a vraiment distingué Paris et la dernière Olympiade donc sur le plan écologique ?
Alors, il faut savoir que la durabilité, de façon générale, on axe ça sur trois piliers, l'écologique, le social et l'économique. La différence principale entre Paris, Londres et même d'autres prédécesseurs olympiques, c'est que Paris s'est principalement axé sur l'écologique, on a fait vraiment sa priorité et voilà, a mis tous ses efforts et tout, peut-être pas tout son argent, mais une grande partie en tout cas, sur le côté écologique et peut-être moins sur le côté économique et social. Voilà, contrairement à Londres qui avait vraiment axé ça, enfin, sa communication et son organisation sur la régénération urbaine, sur le côté attractif de la ville, ça, c'était pas une priorité pour Paris.
Toi, Othmane, donc, tu étais supporter pendant ces Jeux. Est-ce que tu peux nous parler de ton collectif, les baroudeurs du sport ? Est-ce que tu peux le présenter et nous expliquer comment tu as réussi l'exploit d'assister à 54 des 139 médailles de la délégation tricolore, dont 21 en or ?
C'est une bonne question. Mais c'est le fruit d'un travail de 2-3 ans, en fait. C'est un travail collectif au sein de l'association. C'est une association qui supporte les équipes de France dans différents sports. Et du coup, avoir les Jeux à domicile, c'était une chance inouïe pour faire un maximum d'épreuves, ce qui explique la probabilité d'avoir vu autant de médailles. Mais la raison principale, c'est que ça se prépare. On était nombreux, dès que le calendrier est sorti, à noter les sessions à ne pas rater. On a des experts natation qui connaissaient Léon Marchand avant qu'il soit connu, avant célèbre. Donc on a réussi quand même à s'entraider pour avoir des places et aussi à viser les bonnes épreuves. Après, il faut aussi un peu de motivation, bien connaître le réseau de transport en commun. La plupart étaient parmi, je suis parisien, donc ça, c'était plutôt facile. Être prêt à se déplacer d'épreuve en épreuve, non-stop pendant 2 semaines.
Et quel a été alors ton plus grand moment, ton meilleur souvenir, la médaille qui t'a le plus marqué ?
Alors, c'est le triplé en BMX à Saint-Quentin-en-Yvelines. Parce que ça arrive tous les 100 ans. Et voilà, c'est pas le sport le plus médiatisé ou les trois médailles les plus attendues. mais c'est quelque chose de très très fort. Sur place, le monde du BMX est assez petit, même le stade de BMX, c'est un stade qui a accueilli, je crois, même pas 2000 supporters, donc c'était une chance inouïe d'être sur place.
Et toi, du coup, Alice, est-ce que tu as assisté à une épreuve pendant ces Jeux? Si oui, est-ce que ça t'a fait changer de regard et ça t'a peut-être confirmé cet attrait pour réaliser cette étude?
Alors, j'ai eu la chance de voir plusieurs épreuves, notamment l'athlétisme et le basket. Et je suis allée voir la natation pendant les Paralympiques. Voilà, c'était super, moi j'ai adoré. J'avais pas commencé mon étude à ce moment-là, mais ça m'a quand même inspirée. J'avais toujours eu un petit peu en tête de travailler et d'écrire sur les Jeux Olympiques, mais ça m'a confortée dans l'idée que je voulais regarder et rentrer dans les détails de Paris, spécifiquement.
Et justement, toi Alice, qui a étudié vraiment ces Jeux, qu'est-ce qui a changé à ce niveau-là? Est-ce que l'offre de transport a été facilité? Quel comparatif tu peux nous faire avec Londres à ce niveau-là, au niveau des transports en commun? Je disais dans l'introduction que 80% des supporters les avaient utilisés ou étaient venus en mobilité douce. Comment tu expliques ce chiffre assez important?
Ce chiffre, il s'explique par deux choses principalement. La première, c'est que malheureusement ou peut-être heureusement pour Paris, beaucoup de Français se sont déplacés, beaucoup d'Européens se sont déplacés et le nombre de supporters qui prennent l'avion, qui sont venus à Paris pour les Jeux, a été un peu en dessous de la moyenne générale. C'est pas un problème, on a bien vu que les Jeux étaient remplis, mais voilà, déjà ça c'était un facteur très important. Le deuxième, c'est l'accent qui a été mis par le comité d'organisation, le COJOP. Il y a eu plus de 400 km de pistes cyclables qui ont été construites pour les Jeux. Voilà, la facilité de prendre les transports en commun, même si on a vu que le prix des transports en commun avait augmenté pendant les Jeux, et ça, il faut le souligner, c'est un facteur très important qui n'a pas non plus aidé. Mais voilà, ce chiffre est quand même assez important, et pour moi, c'est les deux facteurs principaux.
Othman, toi, il me semble que tu as visité 27 sites pendant les JO et 16 pendant les Paris. Donc, tu es déjà un habitué des grands événements sportifs, mais est-ce que tu as senti que l'organisation, à ce niveau-là, au niveau des sites sportifs, était plus sobre, plus respectueuse de l'environnement? Est-ce que toi, tu l'as senti en tant que supporter dans les gradins?
Comme tu l'as dit, j'ai eu la chance de faire d'autres événements sportifs en amont. Et une des raisons pour lesquelles j'ai pu assister à autant d'épreuves, c'est que c'était facile de circuler, peut-être même plus facile de circuler qu'en temps normal à Paris. Donc, il n'y avait pas forcément, on va dire, un parcours qui est plus chaotique que d'autres pour pouvoir arriver à une épreuve. Et au final, même si des fois il pouvait y avoir des longues queues d'attente, tout le monde faisait son maximum. Et tout le monde voulait que ça fonctionne, que ce soit les supporters, que ce soit les organisateurs, les bénévoles, les personnes qui travaillent pour les sociétés de transport. Donc au final, ça a aussi participé au succès.
Et justement, d'un point de vue économique et environnemental, il y a quand même eu un accent aussi dans la réutilisation, ou en tout cas l'utilisation de sites existants. Que penses-tu, toi, Alice, des infrastructures temporaires qui ont été mises sur la Seine, des sites en réutilisation? Est-ce que, d'après toi, ce qu'a produit et ce qu'a mis en place Paris 2024, c'est vraiment un modèle durable?
Alors, est-ce que c'est durable? C'est la grande question. Je pense que c'est une question à laquelle on répondra peut-être dans quelques années. En tout cas, les infrastructures, elles sont réutilisables, ça c'est sûr. Elles pourront servir aux Parisiens. Maintenant, est-ce qu'elles vont être durables dans le sens vraiment où on l'entend pour les Jeux pendant 2 semaines? Voilà, la question se pose. Vous en avez parlé, la Seine, elle a rouvert il y a quelques semaines pour les Parisiens, mais on parle aussi du village olympique, où des familles et des entreprises viennent de s'installer. Voilà, toute cette partie-là, oui. Et pour parler des sites, c'est vrai que pour Paris, c'était des sites réutilisables, soit c'était des sites temporaires, mais dans tous les cas, les sites existants, ils ont été utilisés pour ces Jeux et ils sont utilisés à nouveau, ça, il n'y a pas de question.
Et toi, justement, Othman, lequel de ces sites t'a paru? Alors, je ne sais pas si tu as vraiment fait attention le jour J, mais est-ce qu'il y a un site qui t'a paru plus vert que les autres, plus écolo, ou à l'inverse, est-ce qu'il y en a un qui t'a paru en décalage complet, où tu t'es dit, là, c'est un peu une aberration environnementale?
C'est une question compliquée, parce qu'il y a aussi une volonté de s'insérer dans l'environnement parisien, sans forcément le dénaturer. Donc, il y a des installations temporaires qui étaient peut-être un peu trop grande pour certaines épreuves, mais en même temps, il y en a eu d'autres où ça s'est inséré à quelque chose d'existant et on n'a pas vu la différence. Le Grand Palais, c'était pas un test, ils avaient déjà organisé des championnats du monde d'escrime, ça s'était bien passé, mais c'était quand même assez impressionnant pour tout le monde de se dire, ah, au Grand Palais, on peut organiser quelque chose comme ça, inviter, avoir plus de 5000 spectateurs en montant juste deux tribunes par-ci par-là.
Je pensais aussi au Grand Palais et même Paris spécifiquement. C'est une ville qui a un patrimoine tellement riche au niveau de l'architecture et au niveau des bâtiments que forcément c'est plus simple de l'utiliser que certaines villes qui pourraient ne pas l'avoir. Ça change déjà beaucoup de choses.
Pour moi, il y a un site qui n'a pas été utilisé à la hauteur de son potentiel et qui ne l'est toujours pas. C'est le nouveau centre aquatique qui est utilisé par la Fédération de plongeon, mais sauf que le plongeon, ce n'est pas le sport le plus populaire en France. Actuellement, il n'y a pas de compétition, il y a des scolaires, mais ça faisait partie de l'accord pour pouvoir le construire. Mais vu la taille, c'est censé accueillir 15 000 personnes en configuration max ou 10 000. Je crois que le prochain événement, c'est les championnats d'Europe de natation, et encore, ce n'est pas sûr qu'il y ait autant de spectateurs. Donc celui-là, par rapport à la taille, parce qu'initialement, il a été pensé pour accueillir les épreuves de natation, qui ont finalement été transférées à la Défense. Je pense que c'est peut-être le seul site où il y a un déséquilibre entre l'ambition initiale et le résultat final.
Donc 53% des émissions de gaz à effet de serre lors de ces Jeux provenaient de déplacements de supporters. Et normalement, enfin habituellement en tout cas, dans les grands événements sportifs, c'est 80%. Alice, comment tu interprètes ce chiffre? On parlait des transports tout à l'heure. Comment on explique ce chiffre?
Comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'explique par les mêmes deux facteurs. En fait, le fait que beaucoup de gens étaient déjà présents en Île-de-France, ou si ce n'est en France ou en Europe, je pense aux Pays-Bas, à l'Allemagne, à la Suisse, qui sont reliés directement par les TGV, et aussi le facteur transport en commun qui a facilité la chose. Après, il ne faut pas se voiler la face, comme je le disais. Ça reste un événement tellement énorme que forcément, ça va générer des émissions. Le moins 30%, donc le passage de 80 à 50%, il a peut-être été dû au fait que moins de gens sont venus, comme je l'ai dit, notamment parce qu'on était encore un petit peu dans le post-Covid. Voilà, à voir si c'est un modèle qui est tenable pour d'autres événements. Je pense que dans les Alpes en 2030, ça pourra nous donner une réponse.
Alors justement, il y a une stratégie qui a été mise en place par le COJOP, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Circular Heritage Model. Donc c'est la réutilisation des sites existants et le fait de s'insérer effectivement dans le patrimoine culturel déjà existant. Est-ce que, d'après toi, c'est un modèle qui peut être réplicable dans d'autres villes? Les Alpes 2030, c'est compliqué, ce sera dans plusieurs stations, mais est-ce que, pour toi, on pourrait adapter ce modèle à Los Angeles ou ailleurs?
Il faut savoir que c'est un modèle qui est pensé pour être parfait, idéal. Le but, c'est de s'en rapprocher au maximum. Paris n'était pas parfaitement circulaire, n'avait pas un héritage parfaitement circulaire. Je pense que, encore une fois, réalistiquement, aucun événement sportif ne peut être parfait. C'est un événement, ça va forcément générer quelque chose. Mais on peut s'en rapprocher, et Paris l'a montré, et je pense que ça ouvre la voie pour d'autres villes et pour d'autres pays qui veulent être hôtes, à montrer que c'est possible de faire différemment. C'est un petit peu une petite révolution. C'est quelque chose qu'on n'attendait pas, qui n'avait pas été fait avant. Donc voilà, je pense que ça dépend des villes, mais c'est possible de s'en rapprocher.
Moi, je vais être un peu pessimiste. Je pense que ce qu'a fait Paris, ça ne va pas être atteint avant au moins une dizaine d'années dans les autres villes. À Los Angeles, c'est impossible de mettre en place. Paris, ça reste assez, on va dire, pas très étendu.
Oui.
Los Angeles, les distances, elles sont folles. Et même s'ils ont une ambition de pouvoir recréer un peu le modèle parisien, il y a des réalités qui sont un peu compliquées, notamment dans les villes qui sont très étendues comme Los Angeles. Et tout ce qui est jeux d'hiver, parce que c'est pas forcément dans la même ville, c'est pas les mêmes sites, etc. Donc le côté Paris, moi je le vois pas. Peut-être Brisbane en Australie en 2032, mais Los Angeles, c'est juste impossible. Faut qu'ils repensent en fait l'urbanisation de leur ville pour insérer les transports en commun. La plupart des gens sur place n'utilisent pas les transports en commun. Donc déjà, en termes de mindset, à Paris, on était préparés. Le jour où on nous a dit, bah, c'est bon, on pourrait prendre les transports en commun.
Et on avait les infrastructures, encore une fois, qui n'a pas forcément, je pense un peu au Qatar, qui a construit tous ses stades pour la Coupe du Monde, qui a construit aussi son réseau de transport en commun pour la Coupe du Monde. Si elle accueillait les Jeux Olympiques, elle aurait à construire. La question ne se poserait pas.
Eh bien, je pense que l'effort, par exemple, si on prend l'exemple du Qatar, ils l'ont fait pour la Coupe du Monde. On sait que ça a été énergivore, ça a coûté énormément d'argent, etc. Mais par contre, je pense que c'est un pays qui est prêt à accueillir des Jeux Olympiques propres, parce qu'ils n'auront pas à reconstruire. Il y a des pays où ils partent de zéro et il y a une culture du transport qui n'existe pas, du transport en commun. C'est limite mal vu dans certaines villes de prendre les transports en commun. Donc il y a aussi un travail de sensibilisation qu'on n'a pas eu à faire à Paris.
Bien sûr.
Plus le coût sur Los Angeles. J'essayais de trouver quel est l'endroit le plus central pour être optimisé les trajets en transport en commun. Et malgré ça, ça reste à une heure et demie minimum.
Mais encore une fois, c'est aussi, comme vous l'avez dit, c'est un problème d'urbanisation aussi. Et je pense que c'était déjà le cas avec Londres, qui avait essayé, enfin moi c'est ce que j'ai étudié dans mon mémoire, Londres avait essayé de mettre en place un petit peu ça, la réutilisation, avait peu construit par rapport aux éditions d'avant. Mais Londres, c'est 2-3 fois la taille de Paris. Donc ça rend les choses plus compliquées. Et pourtant, il y a aussi des transports en commun.
Alors, il y a un autre sujet que les transports, c'est l'usage du plastique. En novembre 2020, les organisateurs prévoyaient une trajectoire zéro déchet et zéro plastique à usage unique pendant l'événement. Le bilan du COJOB de décembre 2024 nous donne des chiffres un peu repensés et fait état de 52% de plastique à usage unique sur la fourniture de boissons par Paris 2024 par rapport à Londres 2012. Donc, toi, Alice, qui a étudié vraiment ces deux JO, est-ce que le zéro plastique olympique, c'est une utopie pour toi?
Alors, je pense qu'il faut déjà un peu remettre ces chiffres dans leur contexte. Depuis que les Jeux Olympiques modernes ont été créés, ils ne cessent de grandir, on ne cesse d'ajouter des épreuves et d'avoir de plus en plus d'athlètes, ce qui est une bonne chose pour plein d'aspects. Pour le niveau écologique, ça l'est un petit peu moins. Alors, il y a une réduction en proportion de plastique à usage unique, mais en termes de taille, le nombre n'est pas si différent. Toutes les pratiques sont bonnes à utiliser et on va en s'améliorant et c'est tant mieux. Mais oui, comme tu le dis, c'est à mon avis un petit peu utopiste de penser qu'on arrivera au zéro plastique. En fait, pour arriver au zéro plastique, au zéro carbone, au zéro tout ce qu'on veut, il faudrait simplement ne pas avoir d'événements. Donc réalistiquement, ça me paraît très compliqué.
Après, il y avait aussi quelques aberrations en tant que supporter. Certes, ils ont lancé les gobelets réutilisables. Le fait que ce soit par sport, ça a lancé une frénésie pour pouvoir en collectionner. Donc, il y en a beaucoup qui traînent. Moi, le premier, j'essaie de tous les avoir. Par contre, ce qui était aberrant, c'était... on avait certes le gobelet. Ils pouvaient, par exemple, avoir un distributeur de boissons où genre, ils appuient sur un bouton et ils remplissaient ton gobelet. Et là, c'était systématique. Ils ouvraient une bouteille plastique, ils vidaient dans ton verre et te donnaient le gobelet. Mais au final, il y a une bouteille plastique qui a été utilisée. On ne sait pas ce qu'elle devient. Peut-être que ça facilite le recyclage, le triage, mais en même temps, je pense que ça aurait pu être pensé différemment.
Alors justement, Alice, est-ce que pour toi, l'héritage environnemental promis par Paris 2024, est-ce qu'il est suffisamment planifié et institutionnalisé pour résister au temps, que ce soit sur le modèle sportif français ou à l'international?
Honnêtement, ça me paraît compliqué. J'aimerais y croire, hein, vraiment, mais une des différences majeures entre Londres et Paris, c'est que Paris n'a pas, pour l'instant, créé de comité ou d'organisation pour suivre l'héritage de Paris 2024. Et ça, c'est, à mon avis, vraiment personnel, un point très négatif, parce qu'on a fait tout ce chemin pour, au final, ne pas vérifier si ça a vraiment fonctionné. Alors, ça a été vérifié par le COJOB jusqu'à un an après les Jeux. Dans quelques jours, quelques semaines, ça sera les un an des Jeux. Mais si on n'a pas d'organisation, si on n'a pas de suivi, on ne saura pas ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas bien fait. Voilà, c'est l'héritage de Paris et l'héritage des Jeux Olympiques en général. Ce n'est pas sur 6 mois, c'est sur des années. Et évidemment que c'est compliqué à mesurer. Mais malheureusement, je pense que les retombées de Paris 2024, on ne saura pas les identifier comme telles.
Merci beaucoup Alice et Othman pour vos témoignages. On retrouve tout de suite Justine Biro, qui est la directrice à l'Institut du sport durable et qui est venue nous parler de durabilité dans le sport également.
Et maintenant, la parole de l'experte.
Donc bonjour Justine. Tout d'abord, merci à nos deux intervenants qui nous ont livré leurs témoignages sur le lien entre l'écologie et le sport, comment rendre le sport plus durable. Et aujourd'hui, on accueille donc Justine Biro. Justine, tu es directrice à l'Institut du sport durable. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu en quoi consiste tes missions et ce que tu as fait jusqu'ici?
Okay. Donc, je suis directrice d'une association qui s'appelle l'Institut du sport durable, où notre mission, c'est de pouvoir outiller le mouvement sportif pour planifier la transition écologique. Donc, on met à disposition tout un tas d'outils gratuits pour les clubs, les fédérations, pour le mouvement sportif qui puissent se former, se sensibiliser et mettre en place des actions concrètes. Et sinon, comment j'en suis arrivée là, c'est que j'ai aussi travaillé dans une autre association qui s'appelle le Shift Project, où là, on fait des rapports pour décarboner plein de secteurs d'activité. Et on a fait le rapport sur la décarbonation du foot et du rugby. On a appelé ça décarbonant le sport, mais on a travaillé spécifiquement sur l'empreinte carbone du foot et du rugby et quels sont les leviers pour décarboner les pratiques.
Je reviendrai sur ce rapport parce que je me suis noté une petite question. Avant ça, première question, le sport est souvent pointé du doigt pour son impact environnemental notamment. Est-ce que tu as perçu une évolution dans la prise de conscience des acteurs du sport sur cette pollution un peu qu'on associe très régulièrement au sport?
Alors le sport, il est déjà très vulnérable aux impacts des changements climatiques par des effets directs, des fortes chaleurs, des pluies diluviennes, des événements climatiques extrêmes qui font qu'on peut moins faire de sport. Et ça, il y a une étude du WWF qui dit que dans un monde à plus 4 degrés, c'est 2 mois d'activité sportive en moins pour toutes les activités outdoor. Donc c'est énorme. Donc c'est forcément des conséquences directes qui doivent nous demander d'adapter un petit peu nos activités sportives. Mais aussi, on a une vulnérabilité avec l'approvisionnement énergétique. Ça veut dire que si demain, le prix de l'essence est vraiment très important, ça va être plus cher d'emmener son enfant faire du foot et du rugby. Et donc, forcément, ça sera faire du sport, ce sera peut-être plus prioritaire. Et ça, on l'a vu pendant la crise énergétique en Ukraine, quand les prix de l'énergie ont monté, on a fermé les piscines parce que ça coûtait trop cher à chauffer et qu'on préférait chauffer les écoles. Donc forcément, ce genre d'événements, quand il y a des canicules, des crises énergétiques, ça permet une petite prise de conscience. Donc, de là à dire que tous les acteurs se sont engagés, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, avec le nombre d'acteurs qu'on accompagne, les gens avec qui on travaille, on voit qu'il y a plein de gens de plus en plus motivés qui ont envie de faire des choses dans les fédérations ou dans les clubs. Souvent, pas par écologie, mais plutôt par... économiquement, parce que ça coûte trop cher d'aller faire des matchs très loin, ou voilà, qui ont envie de faire les choses un peu différemment.
Alors justement, l'écologie est souvent absente des politiques sportives locales. Comment les clubs, les ligues, les organisateurs peuvent-ils vraiment intégrer ces enjeux de façon opérationnelle?
Alors, il y a plein de moyens. Alors, d'ailleurs, dans les politiques sportives locales, on voit qu'il y a plein d'expérimentations ou de collectivités qui sont les premiers financeurs du sport en local, hein, mais qui commencent à s'engager. Et on voit, par exemple, on travaille nous, avec la métropole du Grand Poitiers, qui veut vraiment mettre en place une politique de transition écologique pour ses clubs. Donc, il y a plein de leviers. Il y a des villes comme Lyon qui font de l'éco-conditionnement, ça veut dire on met des critères écologiques sur l'attribution des aides. Est-ce que vous avez fait telle et telle action? Et ça permet d'avoir des points qui permettent d'avoir une subvention plus importante, par exemple. Les fédérations mettent en place des labels pour que leur club puisse répondre aux bons critères et avoir une labellisation. Donc il y a plein de moyens un peu incitatifs pour permettre aux clubs et aux ligues ou aux comités départementaux de s'engager.
Et vous, l'Institut du sport durable, vous êtes des relais de ces moyens. Quelle mission concrète vous avez au quotidien? Je ne sais pas combien vous êtes. Quelle équipe tu diriges?
On est une petite dizaine, selon les moments. On a des ateliers de sensibilisation qu'on vient faire gratuitement dans les clubs pour les licenciés ou dans les comités départementaux ou les offices municipaux des sports. On a de la formation gratuite qui est en ligne sur notre site où on peut venir se former sur l'alimentation, sur la biodiversité, sur plein de sujets en lien avec le sport. Et on a aussi tout un tas de ressources et de bonnes pratiques qu'on essaie de remonter du terrain. Parce qu'on est persuadé qu'il y a plein de gens qui s'engagent, qui font des choses, et même parfois qui font de l'écologie sans le savoir. Et donc ça, c'est un grand travail aussi de cartographie des bonnes pratiques, savoir quel club a mis en place quelle initiative, et montrer aux autres que c'est possible. Donc ça, c'est aussi un gros travail de communication, autant que d'animation de communauté, mais pour dire, voilà ce qui se fait, et voilà comment on pourrait faire.
On va rentrer dans le vif un peu du sujet de cette série d'émissions, qui traite vraiment des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il y a une promesse qui avait été faite avant ces Jeux, de rendre ces Jeux durables, de faire des Jeux écologiques. Est-ce que pour toi, cette promesse a été tenue? Quel regard tu portes sur l'aspect environnemental des Jeux de Paris?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les événements sportifs, les émissions, elles se répartissent de cette manière, c'est qu'il y a environ 80% de l'empreinte qui vient du déplacement des spectateurs pour les grands événements sportifs. Donc, c'est principalement voilà, la masse des gens qui se déplacent qui fait la masse des émissions. Donc, à la fois ceux qui viennent en voiture, parce que ce n'est pas très loin, mais aussi ceux qui viennent de très loin et là, qui viennent en avion. Et on le sait que l'avion, c'est particulièrement un moyen de transport carboné. Et donc, ça pèse très lourd dans le bilan carbone. Les JO ne font pas exception de cette règle, c'est-à-dire que la taille de l'événement étant si importante, c'est-à-dire qu'il faut venir, enfin qu'il y a beaucoup de spectateurs étrangers qui viennent et donc qui prennent l'avion et qui vont créer beaucoup d'émissions et une empreinte carbone importante. Cependant, sur tous les autres postes d'émissions, qui peuvent être l'alimentation, les constructions, le bâtiment, le réemploi, les consommations, il y a une vraie, je pense, politique qui a été menée par les Jeux Olympiques, enfin par le comité d'organisation, pour essayer de réduire au maximum toutes les émissions qui sont liées à des activités qu'ils peuvent maîtriser. Le modèle d'événement n'est pas soutenable en lui-même, mais tous les leviers qu'ils avaient, ils ont pu les activer et je pense que ça a été bien fait.
Quelle initiative concrète, s'il y en a une, qui t'a semblé plus marquante en matière de durabilité pendant les Jeux ? Peut-être au niveau de la mobilité, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une action proposée par les organisateurs qui a été plus durable que d'autres dans les infrastructures, dans l'alimentation, dans l'énergie utilisée ?
Plusieurs choses. Alors, sur les infrastructures, ils ont quand même utilisé le plus d'infrastructures déjà existantes, ce qui permet de réduire significativement un bilan carbone, parce que construire des stades et plein d'infrastructures, c'est très lourd, parce que le ciment et le béton sont particulièrement des secteurs d'activité qui sont émetteurs. Et sur la rénovation parfois d'infrastructures, là, je pense qu'en termes d'héritage, il peut y avoir des choses intéressantes. Nous, on avait fait l'étude de Shift Project sur les stades, où il y a encore des stades qui fonctionnent avec des gros groupes électrogènes, ou en tout cas des chaudières, on va dire, plutôt fuel et gaz, et que l'impact, l'héritage des Jeux Olympiques, la promesse, c'était de pouvoir raccorder tous ces stades au réseau électrique général. Donc ça, c'est des chantiers qui ont été mis en place par l'organisation des Jeux Olympiques.
Justement, tu as copiloté donc ce rapport au Shift Project. Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail ? Le but de ce rapport, avec qui étais-tu pour le piloter ?
Alors, c'est un rapport qu'on a fait avec un groupe de travail au Shift Project et une personne qui pilotait le rapport qui s'appelle Alan Lemoine. Donc, on a mesuré l'empreinte carbone du foot et du rugby professionnel et amateur en France. Donc, on avait commencé par les stades et ensuite, on s'est dit, ah, mais en fait, on peut élargir à la pratique du foot et du rugby. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une photo un peu des émissions de gaz à effet de serre du foot et du rugby en France. Et ensuite, de faire les leviers de décarbonation pour atteindre des objectifs d'ici 2050 et pouvoir réduire nos émissions de 83%. C'est comme un plan d'action où on dit, bah, voilà ce qu'il faut faire, voilà la feuille de route. Et ensuite, maintenant, vous formez vos équipes, vous planifiez la transition écologique, vous faites une feuille de route. Et nous, on a quantifié précisément ce qu'il fallait faire.
Justine, depuis le début de cet échange, justement, tu nous dis que ce qui pollue le plus dans le sport, c'est les déplacements, c'est tous les à côté de l'événement. Est-ce que pour toi, parler de sport durable, justement, est-ce que ce ne serait pas une contradiction dans les termes, une utopie ?
Ah bah non, on a fait un plan pour que ce soit... on a des leviers très précis où on sait comment on peut décarboner pour continuer à faire du sport. Encore une fois, ce n'est pas juste pour faire de l'écologie et émettre moins de gaz à effet de serre. Il faut en émettre moins. Mais c'est plutôt pour nous assurer notre résilience et notre capacité à pouvoir pratiquer une activité sportive. Donc ça va passer par la décarbonation de nos modes de transport, relier nos infrastructures sportives aux transports en commun, électrifier les flottes de voitures avec des petits véhicules électriques légers pour pouvoir aller au stade. Mais il y a plein d'autres leviers qui sont aussi sur les articles de sport, qui sont le deuxième poste d'émission. Ça représente près de 20% de l'empreinte carbone. Sur le sport amateur, là, il y a plein de leviers aussi sur comment on peut réutiliser plus son matériel, allonger la durée de vie, pas se suréquiper en permanence. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire dès aujourd'hui et qui permettent significativement de nous rendre plus robustes face aux chocs qui vont arriver.
C'est désormais la fin de notre émission. Aujourd'hui, on a croisé les regards d'Othmane, d'Alice et de Justine autour de la durabilité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. À travers leurs expériences et leurs études, nous avons insisté sur la nécessité de conserver un héritage écologique durable de ce que nous avons vécu l'été dernier, pour que le sport et l'écologie soient compatibles dans une planète qui en a plus que jamais besoin. Merci à vous d'avoir accepté de venir témoigner, de venir partager vos souvenirs et de croiser vos regards. Merci également à Radio Campus Paris pour la diffusion de cet épisode. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à nous suivre également sur l'ensemble des réseaux sociaux et à très vite.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Il est à retrouver en replay sur radiocampusparis.org.